point de fuite.
Bonjour Christophe Canu.
Bonjour Lucas Torrent.
On va à Paris.
Oui, et plus précisément dans le 5e arrondissement, plus connu sous le nom de quartier latin. Ça sonne bien, un quartier latin. Et c'est le plus vieux quartier, ou un des plus vieux quartiers de la capitale française, et un des plus connus aussi, puisque c'est là que se trouve, alors attendez, je vous ai fait une liste à la Prévert, le Panthéon, la Sorbonne, le Jardin des Plantes, le Collège de France, ou encore l'Institut du Monde Arabe, et
pas
la
mal.
Grande Mosquée. C'est pas mal, hein.
Pas mal.
Alors j'aurais pu ajouter à cette liste le cinéma La Clé, qui est un cinéma mythique à Paris, né dans le Paris révolutionnaire de mai 68. C'est même le dernier cinéma associatif géré de manière collective et indépendante de toute la ville. Sauf que je pose une mettre parce qu'il est menacé de fermeture.
C'est un peu un classique, menacé de fermeture avec le confinement, tenir un cinéma.
Alors oui, c'est clair que ça, on pense tout de suite à ça, mais en fait, ça n'a rien à voir puisque c'est lié à la volonté du propriétaire des murs, le comité social et économique de la Caisse d'épargne Île-de-France, de vendre le bâtiment dans lequel se trouve le cinéma. Alors pour la suite, hein, je précise que je dirais caisse d'épargne ou banque, sinon on ne s'en sortira jamais.
Non, sinon vous faites à la française, vous dites la DCSECEIF.
C'est ça, un acronyme qu'on ne retiendra pas. Non voilà, je dirais banque ou caisse d'épargne, même
d'accord.
Si c'est pas tout à fait ça. D'accord.
Ça marche.
Alors donc, pour l'histoire, nous sommes en 2018 et la banque refuse de prolonger le contrat de mise à disposition des locaux qui le lie aux exploitants du cinéma, ce qui signe son arrêt de mort. Mais des cinéphiles et des habitants du quartier ne veulent pas en entendre parler. Ils créent un collectif, Home Cinéma, qui se dit que la meilleure façon d'empêcher la fermeture définitive du cinéma, c'est de le squatter et de relancer la programmation. Les premières projections auront lieu le 20 septembre 2019. Et le succès, on l'entendra dans le reportage d'Emmanuel Haddad, sera au rendez-vous.
Là, on est un an après. Ce que vous dites, Christophe Canu, c'est que la vie du cinéma est à nouveau menacée. Rien à voir avec le Covid.
Oui, parce que la direction de la banque, en fait, n'a pas accepté. On peut s'en douter cette situation. Elle a donc porté plainte contre 6 membres du collectif Home Cinéma qui ont été condamnés en première instance pour occupation illégale et pas qu'à moitié. 4000 euros d'amende pour chaque accusé et une astreinte de 350 euros par jour à compter du 8 mai 2020.
Et qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui?
On peut se douter là aussi que les membres d'Home Cinéma n'allaient pas se laisser faire comme cela. Ils ont donc fait appel, surtout qu'ils étaient soutenus par la mairie de Paris qui a essayé de convaincre la Caisse d'épargne de revenir sur sa décision. Et puis aussi soutenus par le Centre National de la Cinématographie.
C'est pas mal comme soutien ça.
Oui, c'est pas rien. Donc, on n'oublie pas aussi qu'il y a eu une pétition qui a réuni en quelques jours 15 000 personnes opposées à la fermeture. Et donc, fort de ses soutiens, le collectif Home Cinéma a décidé de faire appel de cette condamnation, tout en continuant d'occuper le cinéma et de faire des projections. Le délibéré de ce deuxième procès était attendu pour le 21 octobre. Pour quel résultat? Voici « On ne mettra pas la clé sous la porte », un reportage d'Emmanuel Haddad, réalisation Didier Rossa.
Alors nous, en fait, là, on ne distribue pas, on collecte des produits de première nécessité qui seront ensuite redistribués. En fait, ça date du confinement. Alors moi, je suis Clara, je suis une habitante du quartier. Par ailleurs, je suis prof de philo. On a choisi La Clé. C'est un lieu qui a du sens pour nous parce que c'est un lieu implanté dans un quartier, que nous, on est habitants du quartier et que c'est un lieu qui revendique une autre manière de se lier les uns aux autres, c'est-à-dire une manière qui ne soit pas fondée sur l'argent, mais qui soit fondée sur l'échange culturel et aussi qui lutte contre une banque. Donc, contre vraiment le symbole pour nous de ce que le capitalisme sauvage des années 80 produit dans nos vies.
Et donc placardé juste au-dessus du groupe Solidarité Quartier Latin qui fait sa distribution, on a une citation de Jean-Luc Godard qui dit « Ce qui me console de toute façon, c'est de savoir qu'il y a toujours quelque part dans le monde, à n'importe quelle heure, quand ça s'arrête à Tokyo, ça recommence à New York, à Moscou, à Paris, à Caracas. Il y a toujours, dis-je, un petit bruit monotone, mais intransigeant dans sa monotonie. Et ce bruit, c'est celui d'un projecteur, en train de projeter un film. Notre devoir est que ce bruit ne s'arrête jamais.
Oh, quelle merveille que le pouvoir
regarder ce qu'on ne voit pas.
Je vais donner le billet.
Ça marche.
Du coup, c'est prix libre.
Ok, mais c'est pour nous deux.
D'accord, bah, je vous donne les deux tickets. J'ai entendu votre ami, il est déjà allé.
Ouais, merci.
Merci.
Du coup, c'est voilà.
Alors,
Moi, je vais juste vous dire un mot sur le cinéma et sur l'occupation, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont encore jamais venues ici. Donc, le cinéma La Clé est occupé depuis septembre 2019. C'est un bâtiment qui appartient en fait au comité social et économique de la Caisse d'épargne Île-de-France. Donc, des gens qui sont, en tout cas, on l'a expérimenté, qui ne sont pas beaucoup dans le dialogue et qui ont plutôt envie de revendre ce bâtiment, a priori, on ne sait pas trop pourquoi en faire. Donc on est venu dans ce bâtiment, enfin, on est venu dans le cinéma pour le sauver, parce qu'il a une histoire, et on peut après développer tout ça et en parler après. Et voilà, ça fait un an qu'on est là pour sauver ce cinéma. Il y a des projections tous les soirs, à 19h30. C'est notre première but. C'est la première manière pour vous aussi de nous soutenir, c'est de venir à ces séances. On est condamné déjà depuis janvier, et on est expulsable en fait depuis donc, de nombreux mois. On a eu un procès en appel récemment le 21 septembre. On aura le délibéré le 21 octobre. Donc pour l'instant, on est encore vraiment toujours dans l'urgence, dans l'incertitude, toujours expulsable. Voilà, donc on attend vraiment ce délibéré. On continue à faire des séances tout le temps. On essaie de trouver des solutions pour que ce cinéma puisse continuer à vivre. Et maintenant, après un an en fait, de tout ce qu'on a mis en place aussi dans ce cinéma, vivre aussi en espérant de pouvoir garder au maximum toute cette énergie et toute cette vie qu'il y a, parce que du coup on est au total presque une centaine de bénévoles maintenant à faire tourner le cinéma, avec un noyau dur, on va dire, de 30 personnes qui organisent un peu tout ça, et plein de bénévoles qui viennent tous les soirs nous aider à faire le bar, l'accueil, etc.
Je m'appelle Bulle Ménian. Je suis rentrée dans cette occupation parce que je fais partie du collectif Les Froufrous de Lilith. C'est un collectif qui existe depuis 5 ans et on programme depuis toujours en fait, dans des lieux alternatifs, donc des squats un peu partout dans Paris. Comme j'ai des compétences en communication, je m'occupe un peu de la communication aussi. Et voilà.
Là, donc, voilà. Du coup, on est à l'entrée. Là, ouais. Vous allez lever les stores,
c'est ça.
Ça s'active pour lever les stores, pour faire entrer le public.
C'est ça, en fait, là, comme le film dure 3 heures, on ouvre une heure plus tôt. Donc là, on va ouvrir à 18h30 et on va lancer la projection à 19h. Et sinon, tous les soirs, il y a des films, alors quasiment 95% du temps, ce sera assez... On ouvre les portes à 19h30 pour lancer les films à 20h.
Donc là, le public va rentrer, on va commencer...
Le public va rentrer. Ouais. Si jamais les gens ne sont jamais venus, on va leur demander d'adhérer à l'association. C'est l'adhésion, elle est gratuite, mais elle est nécessaire. C'est une petite protection pour nous de se dire, ben, en fait, on n'organise pas des événements pour le grand public, on organise des événements pour nos adhérents. Et c'est aussi une manière d'impliquer les gens aussi dans l'occupation. Maintenant, les gens connaissent beaucoup La Clé. On se rend compte que c'est un lieu dont les gens ont besoin. Enfin, qu'il n'y a pas d'autres lieux comme ça, en fait, dans Paris. Cette forme-là, cette manière de montrer les films, cette manière de pouvoir aussi en discuter, cet espace aussi qui est hyper vivant, parce que du coup c'est plein de bénévoles et plein de gens qui viennent faire des choses. Ouais. La programmation, elle est aussi hyper différente, puisqu'on est, c'est une programmation collective où chacune peut proposer des choses. Donc tout ça, et le fait que ça fait un an, le fait que les gens sont hyper sensibles au fait que ce lieu peut mourir et qu'on essaye de le garder. Donc il y a ce qui fait que petit à petit, en fait, on a énormément de gens qui nous suivent et donc il y a toujours du monde. Mais après, là, en septembre, on a fait une grosse programmation avec beaucoup de gens connus et il y a eu beaucoup de projections qui étaient complètes. Et en fait, on se rend compte, quand on fait la moyenne des entrées, que en fait, on est assez proche du prix, finalement, de revient dans un cinéma même commercial, en fait.
Donc en gros, vous êtes un cinéma rentable.
En fait, oui, on pourrait. Là, c'est de l'argent qui sert à payer des amendes, qui sert à payer l'entretien du cinéma, etc. Mais oui, c'est un cinéma qui pourrait fonctionner, c'est clair. Mais je pense qu'il y a au moins eu déjà 10 000 euros d'amende. Là, on ne sait pas encore le résultat du nouveau procès, mais c'est possible qu'il y ait aussi encore une amende. Et c'est surtout depuis mai, on est condamné à une astreinte de 350 euros par jour. Aujourd'hui, ça ferait à peu près 70 000 euros. Et on a décidé de rester parce qu'on a demandé à avoir un procès en appel. Donc on a décidé de rester au moins jusqu'au résultat de l'appel et aussi pour gagner du temps, pour essayer de pouvoir mettre en place quelque chose qui va fonctionner pour récupérer le cinéma.
Et le résultat de l'appel, c'est le 21 octobre.
Exactement.
Dans 15 jours,
c'est
un
ça.
Petit peu plus.
Ouais. Voilà. Donc on verra. On n'espère pas être gracié, mais on espère justement... pouvoir gagner du temps encore un petit peu pour que ce cinéma soit racheté et reste le plus possible comme l'aventure qu'on vit depuis un an, quoi.
En dehors des projections de cinéma, le cinéma à la clé est toujours fermé. Son store est baissé et ses deux portes sont maintenues fermées à clé parce que les membres de l'association Home Cinéma sont toujours sous le coup d'une expulsion. Donc depuis le début de l'occupation, les membres les plus chevronnés de l'association Home Cinéma font du gardiennage. Ils dorment sur place, ils sortent un matelas dans un placard et passent la nuit dans le cinéma. Merci.
Alors moi je suis Derek Wolfenden, du coup je suis le président de l'association Home Cinéma, donc qui occupe le cinéma à la clé depuis donc maintenant un an et un mois et quelques jours. Tout a commencé avec un petit cinéma de quartier menacé de fermeture et tout d'un coup il ferme en avril 2018. À l'époque j'étais ancien salarié à mi-temps pendant 3 ans. C'est un propriétaire très complexe, c'est-à-dire que c'est le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne, qui maintenant c'est le comité social et économique de la Caisse d'épargne, qui considère leur bien comme vraiment un bien privé et qui veulent pas entendre bien culturel, bien public et histoire même de ce cinéma qui les dépasse, puisque ce cinéma il date... Alors il y a plusieurs échos, il y en a qui disent que c'est fin 60, d'autres c'est 73, selon le fondateur Frankfurter. Et l'originalité est vraiment là, c'est là où ça devient vraiment précieux ce cinéma en termes historiques, par rapport à la culture en France, etc., c'est qu'il va défendre ce que les autres cinémas ne défendaient absolument pas, c'est-à-dire, entre guillemets, le tiers cinéma, à savoir le cinéma sous-représenté. Donc c'est lui qui va organiser énormément de festivals ou de projections liées à l'Afrique noire, liées au Maghreb, liées à l'Amérique du Sud, liées à l'Asie, le Vietnam, etc. Et aussi, il avait une très grande sensibilité avec la culture noire américaine et aussi la musique. Mais voilà, ce cinéma, il nous tient à cœur et on a appris vraiment à l'aimer encore plus en l'occupant. Donc pourquoi le tuer, ce cinéma? Et en plus, vu son histoire, vu que c'est le dernier cinéma associatif, moi, c'est là où j'étais scandalisé. C'est exactement comme dans Le Soldat Ryan. Voilà, il y a 3 frères, il y en a 2 qui meurent en guerre, il faut sauver le dernier. Enfin, tout simplement, c'est logique. Je sais, mais pourquoi là, c'est pas logique? Pourquoi c'est le dernier cinéma associatif et personne ne fait rien et tout le monde s'en fout, en fait?
Est-ce que, justement, vous avez convaincu Paris de la nécessité du bien fondé de sauver ce cinéma associatif? Ou est-ce que toutes les valeurs de cinéma associatif, d'exception culturelle, etc., c'est un petit peu quelque chose du passé? On est passé à autre chose à Paris et Paris n'a plus la place pour...
C'est pire que ça. C'est en fait la ville de Paris, elle spécule sur l'exception culturelle, mais c'est du bluff. Elle ne fait rien concrètement. La vraie culture de défendre des choses qui doivent être défendues parce qu'elles sont fragilisées par un système vraiment dur, autoritaire, tout ce que tu veux, c'est ça qu'il faut défendre.
Le souhait de la ville est de faire en sorte que le cinéma La Clé poursuive une activité cinématographique. Et cette volonté de la ville s'inscrit dans une politique large qui est la politique de soutien aux salles de cinéma à Paris. On a effectivement tendance à se focaliser un petit peu sur la seule situation de La Clé aujourd'hui. La politique de la ville en matière de cinéma est de soutenir toutes les salles indépendantes. La ville dépense plus d'1 million d'euros par an en fonctionnement pour les salles de cinéma indépendantes, les soutient en investissement, accompagne les projets de salles. Et par ailleurs, récemment, pour leur permettre de faire face à ces salles indépendantes au défi du confinement du mois de mars dernier, la ville a mis en place un plan de soutien de près de 500 000 euros pour les salles indépendantes. La spécificité du cas de la clé, c'est que les salles de cinéma sont des activités privées. On est dans du commerce privé, même si le mot peut choquer, même si les salles de cinéma sont classées ARS, cela reste des commerces. Et on est, dans le cas de la clé, dans une situation où on a un propriétaire qui souhaite vendre son cinéma. La ville de Paris lui a fait part clairement à ce propriétaire du souhait que se poursuive une activité cinématographique pour les nouveaux acheteurs. On en est là, voilà. Et il n'est pas dans la nature de la ville d'intervenir pour l'instant dans un sujet qui est privé.
Michel Gomez, vous êtes le délégué général Mission Cinéma à la mairie de Paris. Selon le collectif Homme Cinéma, la mairie a eu le temps d'agir, c'est-à-dire qu'ils occupent le cinéma depuis un an et plus d'un mois. Et ils n'ont eu en face donc que des promesses et des volontés de soutien, mais ils demandent des actions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça, le fait que finalement la mairie a eu le temps d'agir et aujourd'hui elle a la possibilité peut-être de faire une préemption, de sauver le cinéma? Vous dites être encore dans l'attente.
Nos amis du collectif, effectivement, ont leur analyse de la situation, sauf qu'on est, nous, mairie de Paris, dans un cadre qui, qu'on le veuille ou non, est un cadre administratif qui nous régule un peu. Par exemple, quand il parle de préemption, on ne peut préempter que lorsqu'il y a un acheteur. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteur. Par ailleurs, la préemption obéit à des règles extrêmement complexes qui font que, par exemple, on ne peut préempter que s'il y a un schéma d'organisation, quelque chose qui a été planifié précédemment quartier par quartier, ce qui n'est pas le cas dans le quartier de la Clé.
Donc on parle du cinéma à la Clé, mais il y a une question qui déborde le cinéma à la Clé, notamment en période de confinement et donc de fermeture des cinémas en général à Paris. Si on remonte un petit peu dans le temps, on sait que voilà, Paris dispose d'un patrimoine de salles de cinéma on peut dire unique au monde, mais qui s'est quand même beaucoup réduit ces dernières années. J'ai retrouvé notamment dans... C'est un article par ailleurs parmi d'autres, du Vanity Fair, donc en mai 2019, qui dit en 10 ans, près de 15 salles de prestige ont éteint leurs écrans à Paris. S'ensuit une longue litanie donc de cinéma fermé. L'UGC Convention démolie, la Royale, rue Royale, une boutique Chanel, le Berlitz disparu, le Raspail Palace, un showroom mini, etc. Je ne vais pas tous les citer, le Lynx à Pigalle, un sexodrome. Comment la mairie de Paris donc sauve ces petits cinémas de quartier?
Je trouve que la vision que vous présentez était effectivement extrêmement passéiste et pessimiste. Je crois qu'il faudrait que les Parisiens voyagent un peu et aillent voir ce qu'est l'État et les nombres de salles de cinéma dans les autres grandes capitales européennes. On a aujourd'hui à Paris, il faut quand même pas l'oublier, près de 90 salles de cinéma, plus de 400 écrans, une très très grande diversité de salles de cinéma, des salles ARS, des salles de répertoire, ce qui est extrêmement rare, hein. On a des salles de répertoire de patrimoine qui continuent à bien se porter. On a des créations de salles, il y a des salles qui se sont créées au cours de ces 15 dernières années. Simplement, on est dans un tissu qui est un tissu vivant. C'est-à-dire qu'un tissu qui est vivant est un tissu économique dans lequel il y a des salles qui se créent. Il y en a d'autres qui se rénovent. On a à l'heure actuelle des projets de rénovation ou de construction de salles qui sont absolument magnifiques à Paris. Les travaux de la Pagode Cinéma Historique vont bientôt commencer. Le Gaumont Capucine qui appartient à Pathé va être totalement refait par l'architecte Renzo Piano. On aura bientôt dans le 11e une salle de cinéma qui va ouvrir dans un quartier qui manque de salles. Donc, si vous voulez, la vision passéiste d'un monde avec une densité de salles beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, eh bien, simplement, l'évolution économique dit quelques évolutions. Donc, attention à la vision des années 50, 60, 70, 80. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, du développement de nouveaux formats audiovisuels, de nouveaux acteurs audiovisuels qui sont devenus des concurrents des salles de cinéma. Il faut que les salles de cinéma se développe, se modernise, soit confortable et on les y aide.
En écoutant des vieux cinéphiles parler, ils racontent qu'à une époque, pendant leur jeunesse, il y avait vraiment des cinémas, les cinémas indépendants, et on allait dans tel cinéma et on défendait tel cinéma. Il y avait presque des clans qui se formaient autour des cinémas qui étaient fréquentés quoi, dans le quartier latin. La clé s'inscrit complètement là-dedans, même si moi j'idéalise pas une époque, quoi. J'idéalise pas l'époque du quartier latin, mais quand même. Enfin, je connais pas de cinéma qui a une identité aussi marquée que la clé occupée. Et pas seulement parce que c'est un cinéma occupé illégalement, quoi.
On est dans la salle commune de La Clé. C'est une salle tout en canapé en cuir et en affiche de film, très cinéphile. On est le 15 octobre, 1h30 avant la projection de ce soir. La Clé va entamer un cycle Jean-Luc Godard. Et voilà, donc on est avec Jules qui fait partie du collectif.
Donc pour me présenter rapidement, j'ai 31 ans et je suis jeune réalisateur. Je suis engagé dans ce collectif Home Cinéma et dans l'organisation, la programmation de La Clé depuis son ouverture aux alentours du 21 septembre 2019. Et c'est un projet dans lequel je me retrouve entièrement, dans lequel je me suis retrouvé entièrement dès le départ. Le fait de proposer depuis l'ouverture, la réouverture de cinéma, un film, minimum un film différent par jour, qui est programmé indépendamment de toute logique économique et commerciale, quoi, qui n'est programmé que parce que ce film compte pour la programmatrice ou le programmateur du jour, je trouve ça phénoménal, quoi. Et ce qui est phénoménal aussi, c'est la fréquentation, quoi. C'est fou de voir à quel point les gens viennent ici en nombre. Les gens ici, on leur parle. Les gens ici se parlent. Ils vont voir des films, mais ils se parlent avant, ils se parlent après. Voilà ce que ça dit. C'est-à-dire, on peut, en fait. On peut occuper un endroit, on peut s'accaparer un endroit et le faire fonctionner d'une manière vraiment démocratique, vraiment tournée vers des préoccupations très éthiques. En fait, j'espère que ça va aider à prendre conscience de l'importance de ce que c'est qu'occuper un endroit pour le faire fonctionner tel qu'on l'entend. Et là, on vit la démocratie directe. Et c'est presque ça qui m'intéresse, presque encore plus que de faire de la programmation. C'est la dimension politique de cette action, quoi. Et ça donne de l'espoir.
Sur le carton, peut-être que la peinture, ça peut marcher, je sais pas. Ouais. Mais pas sûr, ça peut être aussi une connerie. Ça, je suis pas douée pour tout le dire. Il marche bien, celui-là ?
Bah, j'ai l'impression.
Ouais, franchement, peut-être ça se verra bien en noir. C'est juste qu'il faut y aller, quoi.
Ah, mais moi,
faire du truc épais. Ouais. Au moins, l'avantage de la peinture, c'est que t'es tout de suite épais. Peut-être, ouais. Et il y a de la peinture noire dans le placard.
Ah ouais ?
Ouais. Ah, un gros tube de peinture.
On fait une trace. Moi, je sens que je vais pas faire rentrer les phrases.
Oui, bonne idée, fais un crayon.
Donc là, Lucille, vous êtes en train de préparer des pancartes pour une manifestation contre une loi qui concerne les squats, c'est ça ?
Ouais, c'est une loi très dangereuse pour la persévérance du milieu squat, parce que ça permet au gouvernement de sortir tout de suite des squatteurs à peine arrivés, avant même qu'on puisse lancer une procédure pour se protéger. Nous, on se sent plus concernés du coup par les squats artistiques, où en fait la plupart des jeunes artistes précaires, ils ont absolument pas les moyens de se payer un atelier, d'autant plus à Paris. Donc la plupart sont squatteurs, enfin vivent dans des, ont leurs ateliers dans des squats artistiques à Paris, proche banlieue. Nous à La Clé, la plupart des occupants qui ont ouvert il y a un an venaient de squats artistiques. Donc il y avait le Doc, le Poste. Le Poste, c'était un gros squat dans le 9e et c'est surtout grâce à eux qu'on a pu ouvrir parce qu'ils sont arrivés en gros nombre, une cinquantaine pour la nuit d'ouverture.
Qui était le 21 septembre 2019, c'est
ça ? Tout à fait, ouais, le 21 septembre 2019, donc ouais, il y a un peu plus d'un an.
En parlant de date, aujourd'hui on est le 21 octobre 2020. Ouais. Il devait y avoir un délibéré sur votre appel. Il a été reporté d'une semaine, c'est ça ? Et ouais. Donc vous attendez toujours la réponse ?
Ouais, c'est ça. Ben, on pensait l'avoir aujourd'hui. C'est un peu le paradoxe de ce jugement, c'est qu'on est effectivement jugé pour du droit au logement, alors qu'on n'a jamais revendiqué ce cinéma comme un logement. Évidemment, c'est une occupation politique. On protège un lieu et on n'est pas ici pour y vivre, et on le prouve depuis un an. Donc, de toute façon, le jugement est biaisé parce que nous juger comme des squatteurs, c'est aberrant dans le cas de La Clé. C'est vraiment une occupation citoyenne, quoi. Et on n'est pas là pour dormir ici. Et on n'est pas là même pour avoir nos ateliers ici. En l'occurrence, personne ne se crée son espace de travail ici. On est vraiment là pour faire vivre le cinéma tous les jours, quoi. La crise du logement continue, 250 000 personnes dehors, 3,1 millions de logements vacants.
Ouais.
Genre trois lignes comme ça, tac, 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 c'est pas mal.
Ouais.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est le 28 octobre, c'est le jour du délibéré de l'appel de la clé. Alors l'équipe doit être en ordre de bataille à l'intérieur du cinéma pour savoir s'ils vont être expulsés, s'ils vont rester dans les murs. C'est encore une journée décisive pour l'association Homme Cinéma. On va demander à Lucille de nous expliquer où ils en sont, si le délibéré est déjà arrivé, si le couperet est tombé. On va voir s'il y a une bonne nouvelle ou pas. Merci. Le membre de l'association qui a le contact direct avec l'avocat qui doit donner la réponse du délibéré, c'est Vincent. Donc là, Vincent est au téléphone avec l'avocat. Il est en train de lever le point. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle.
Il n'y a plus d'astreinte. Ok. Ok. Il va payer du coup une amende. Ah bah oui, bien sûr. Ok. Là, on ne sait pas avoir. Ça marche. On a 2000. Enfin, on peut payer 2500 euros en tout cas. D'accord, c'est bravo.
Il y a Derek qui s'approche, souriant.
Putain, c'est énorme. 6 mois après le passage de l'UIT.
Félix, t'es viré.
Quoi ?
Derek, t'es viré. Il n'y a plus d'assigné.
C'est pas vrai. C'est que la...
Non, un délai de 6 mois.
Quoi ?
Il n'y a plus d'astreinte, délai de 6 mois, et l'association est reconnue comme seule occupante.
Donc on a gagné, si vous voulez.
Par contre, il nous laisse 6 mois de délai après le passage de l'huissier. Donc ça veut dire que l'huissier va pas passer tout de suite en plus, parce qu'en plus là il y a un confinement qui arrive.
L'astreinte est annulée.
Et tout ce qu'on aura payé, c'est une amende de 2500 euros.
Oh, c'est de la balle.
Ça, c'était ouf. Mais comment c'est possible?
Bah, le juge, c'est plutôt de notre côté.
Putain, mais c'est
ouf. Genre, je me disais ça, je me disais, on s'est dit, tout le monde était tellement sûr qu'on va perdre.
Genre, reviens pas. Alors là, j'avoue.
Non. Mais vous vous rendez compte, on a fait aujourd'hui l'économie de 70 000 euros? C'est pas tous les jours?
Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai que ça soulage les assignés, c'est vraiment.
Et 6 mois tranquille, là. Je m'appelle Almut Lindner et j'habite le quartier. C'est mon cinéma depuis 25 ans. Donc là, franchement, le juge, merci. Voilà.
On ne mettra pas la clé sous la porte, un reportage d'Emmanuel Haddad, réalisation Didier Rossa. Christophe Canu, on apprend plein de choses dans ce reportage, notamment, mais j'en étais sûr, les Parisiens ne voyagent pas assez.
Ouais, ça c'est le genre de phrase qui ne peut pas vous échapper, Lucas. C'est effectivement ce que dit Michel Gomez, le monsieur cinéma de la mairie de Paris, qui affirme qu'en comparaison des autres grandes villes européennes ou mondiales, il y a plus de cinéma à Paris qu'ailleurs, et donc que les Parisiens se feraient bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour relativiser les choses. Et au regard des chiffres, ça semble se vérifier. C'est en tout cas ce qu'écrit la journaliste Léna Luto dans le Figaro le 17 mai 2017. Je la cite, « De New York, Londres, Stockholm, on rentre avec une certitude. Paris reste la capitale mondiale des cinémas, avec 88 salles, soit 420 écrans contre 389 en 2015. Leur densité est exceptionnelle. » Parenthèse, elle ne cite pas combien il y a de cinémas à Londres
ou
à Stockholm, mais bon, on va la croire sur parole.
Ouais, il doit y en avoir deux à Londres.
C'est ça, on va dire ça comme ça. En tout cas, elle ajoute que « Où que l'on soit à Paris, la distance à pied d'une salle est de maximum 15 minutes. Et l'autre force de Paris, c'est d'avoir des cinémas originaux.
Michel Gomez, il parle, lui, de cinéma de répertoire. C'est quoi? C'est de l'art et essai bosniaque des années 40?
Ouais, ça aurait pu être ça. En fait, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis renseigné auprès d'Emmanuel Haddad, qui a réponse à tout. C'est une salle spécialisée dans la projection de films anciens ou remarquables. L'exemple type à Paris, c'est le studio Galande, qui diffuse le film culte The Rocky Horror Picture Show chaque semaine sans interruption depuis 1978, ce qui est unique au monde.
Du coup, on peut un peu comprendre Michel Gomez, qui est le monsieur cinéma de la mairie de Paris, quand il dit que c'est bon, Paris, il y a assez de cinéma, il y a de quoi faire.
Oui, on peut le comprendre, mais tous les cinémas, et c'est peut-être ça qui énerve le collectif Home Cinéma, ne sont pas logés à la même enseigne. La ville a racheté le cinéma Le Luxor, 25 millions d'euros, ce qui a fait polémique à l'époque, alors que le rachat de la clé ne coûterait que 4-5 millions.
Comment on explique du coup cette différence de traitement ?
Bah là encore, j'ai posé la question à Emmanuel Haddad, qui n'est sûr de rien, mais qui a quelques hypothèses. Déjà, ce n'était pas la même municipalité. Le Louxor a été racheté en 2003 par l'équipe de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, le prédécesseur donc d'Anne Hidalgo. Ensuite, le Louxor est le plus vieux cinéma de Paris qui a été ouvert en 1921. C'est donc un mythe, d'autant plus qu'il s'agit d'une salle art déco et que ça compte du point de vue de l'architecture. On ne peut pas en faire ce qu'on veut.
Il y avait d'autres dimensions aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, une chose à encore sans doute compter, c'est l'emplacement du Louxor qui se trouve à Barbès, un quartier populaire qui est prioritaire au niveau des investissements de la ville, ce qui n'est pas le cas du quartier latin où se trouve la clé, un quartier beaucoup plus riche.
Encore une chose, Christophe, le collectif Home Cinéma qui donc occupe la clé, une amende de 2 500 €. Et ils étaient contents.
C'est vrai que moi, ça m'a fait rire, ça. On se réjouit d'avoir une amende, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais en fait, les personnes de ce collectif sont contentes, car si le tribunal, lors de l'appel, avait suivi la première condamnation, ce n'est pas 2 500, mais 80 000 € que le collectif aurait dû payer. Donc, ça permet de relativiser. Ce qui est, pour les membres du collectif Home Cinéma, un signe que la justice reconnaît la portée culturelle de leur occupation. Il a, en quelque sorte, reconnu le juge qu'il ne squattait pas le cinéma pour y vivre. Mais pour le faire vivre, la nuance est subtile.
On va parler du futur de cette association, mais si vous le voulez bien, Christophe, je vous propose d'écouter le choix de Nathalie Schauenberg et on se retrouve après. Et ce choix, c'est M, avec le titre « Cinématographe ».
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les mains se cherchent, les mains se trouvent. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. Ah, mercredi prochain. Merci. Maintenant, ce n'est plus mon papa m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de 5 Cufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours. Et ça galope, et ça reste encore comme autrefois, rempli de bœuf bol sans foi ni loi, et des justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gare, 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 gare et coupelle, s'approche du rabat d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, mais la lame n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Prends doucement, rouge de mon bras. Le fauteuil où elle se croit insurée ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté 1 an et on a eu beaucoup d'enfants.
Christophe, on l'avait dit, donc notre reportage Point de Fuite, on était dans ce cinéma associatif, La Clé, dont le futur est difficile. Du coup, il y a une association qui le défend, qui le squatte même. C'est quoi le futur possible?
Alors, l'idée, c'est qu'elle rachète les murs. Elle a lancé pour cela une campagne de crowdfunding sur Hello Asso, hashtag sauf qui peut La Clé en un seul mot, pour racheter le cinéma en créant un fonds de dotation. Le pari de Home Cinéma, c'est que l'association arrive à récolter 1 million d'euros et puis elle espère aussi obtenir 2 millions d'euros de mécènes et 1 million de crédits bancaires pour racheter les murs qui coûtent 4 millions d'euros. Et si elle n'y arrive pas, elle espère que la mairie exercera son droit de préemption pour en faire un bien public.
Dernière chose, Christophe, j'imagine que comme tous les cinémas en Europe, en Suisse aussi évidemment, le cinéma La Clé souffre quand même du confinement.
Oui, mais ce n'était pas le cas lors du premier confinement, puisque pendant toute sa durée, les bénévoles ont continué de faire des projections sur des murs en extérieur. Et pour que ça reste dans le cadre qui limitait en France le droit de sortie à une heure maximum par jour, ils n'ont diffusé que des films de moins d'une heure, ce qui permettait aux voisins et aux passants d'y assister, ce qui est plutôt bien vu. Mais cette fois, ils estiment que puisque le confinement, même s'il est moins strict, semble moins respecté à Paris, ils ne veulent pas forcément rajouter une cause de rassemblement dans la rue. En attendant, ils préparent la programmation pour le déconfinement.
Demain, Christophe, on reste en France avec un côté identitaire français qui, vu de la Suisse, peut être assez fascinant. C'est la chasse.
Ouais, et c'est fascinant, moi je vous le confirme, quand on écoute ce reportage qui va donc se passer en Normandie et qui traite de la chasse à courre. Pourquoi enflamme-t-elle autant les passions? Que connaît-on de cette pratique ancestrale très codifiée? Et que connaît-on de celles et ceux qui la défendent? C'est ce que l'on va découvrir dans un reportage de 1967 dont le propos n'a pas pris une ride.
C'est la curée, c'est l'épilogue de la chasse. Tout est fini, la bête est morte, il ne reste plus qu'à récompenser les chiens. Car si l'homme chasse par plaisir, partout, pour satisfaire quelques instincts parfois troubles, le chien, lui, chasse pour manger. Il chasse parce que c'est sa nature de chien de chasse, d'animal presque sauvage, parce que l'animal tue pour se nourrir. Mais cela aussi se fait avec un certain rituel. La chasse à courre, la vénerie, c'est une des formes que certains hommes adoptent pour satisfaire leur goût du sacré, leur goût d'une certaine discipline. L'adoption de certaines règles d'un jeu cruel peut-être, mais qui paraissent d'autant plus cruelles que ce jeu se déroule avec un certain apparat.
Chassé à corps et à cri en Normandie, c'est un reportage, c'est une archive de Georges Kleinman. À écouter demain dans Point de Fuite. À demain, Christophe.
À demain, Lucas.
Vous prenez votre bugle.
Oui, c'est ça.